I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Avant, d'après ce qu'on m'a dit, j'étais une femme ambitieuse et frondeuse. Depuis le 7 octobre 2021, je suis une rescapée. Moi, je m'appelle Jaël. J'ai grandi dans une famille d'origine antillaise, plutôt dans un cadre, on va dire, bourgeois. J'ai grandi en région parisienne dans le 94 et 91, quand j'étais enfant. Je suis la dernière d'une fratrie de trois. J'ai un grand frère et une grande sœur qui ont 10 ans de plus que moi, du côté de ma mère. Mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune. J'avais 6 ans. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément côtoyé mon père, qui lui, par ailleurs, a eu d'autres enfants, puisque du côté de mon père, nous sommes 13. Donc, j'ai grandi dans un environnement un peu mixte, avec une mère qui travaillait à la Banque de l'Union européenne, qui était avec un statut un peu d'expatrié, dans un environnement, on va dire, très intellectuel. Et puis, mon père, plus dans un environnement, on va dire, caraïbéen, antillais, où j'allais passer mes vacances quand j'étais enfant. Alors moi, j'ai reçu une éducation plutôt stricte, plutôt vieille école, du fait de l'éducation de ma mère. Ma mère est d'origine martiniquaise et barbadienne. Elle a été, je sais pas si on peut dire adoptée, mais on va dire recueillie à l'âge de 13 ans par une famille juive dans le 16e. Et elle a grandi dans cet environnement-là, avec un environnement très privilégié. Je suis une enfant qu'on appelait une enfant précoce, ou dite surdouée. Dans les années 80, j'avais sauté plusieurs classes, puisque je savais lire avant d'entrer en maternelle. Et donc, j'ai pas fait de CP et de CE1. Donc, j'étais plutôt une enfant studieuse, rêveuse, très sage, très pleureuse aussi, apparemment. Enfin, donc, maintenant, je comprends qu'on dirait plutôt hypersensible, mais on m'appelait le saule pleureur, parce que j'étais très dans l'émotion. Et en tout cas, de ce que je sais, avec un côté extrêmement famille, que ce soit des deux côtés derrière, puisque ce sont des grandes familles, ma mère, ils sont 8 frères et sœurs, et du côté de mon père, ils sont 10. Donc, avec des réunions de famille très relevées, donc des valeurs familiales très importantes, religieuses également, et dans un certain confort financier. Ma scolarité, en fin de compte, arrivée au collège, a été un peu chaotique. Ma mère a changé de métier. On est parti s'installer dans la Caraïbe pendant 2 ans. Expérience qui n'a pas forcément été concluante pour elle au niveau professionnel. Et donc, moi, j'ai dû déménager et perdre tout l'environnement que je connaissais, qui était du coup extrêmement stable, au profit de quelque chose qui l'était moins. Donc, ça a créé vraiment un à-coup dans ma scolarité. Quand on est revenu s'installer en métropole, moi, j'ai repris des cours en candidat libre. J'ai pas repris un cursus classique. Et ce qui fait que ça a un petit peu changé mon orientation, on va dire, de carrière, parce que je pensais plutôt vers des métiers de droit, d'avocat, puisque j'étais une enfant qui parlait plutôt bien et peut-être beaucoup. Et puis, dans des métiers avec une forte notion de littéraire. Et les choses ont évolué quand on est revenu s'installer en métropole, puisque moi, le manque de structure et de repères a fait que l'école est passée en second plan. Donc, a un peu changé mes projections initiales. À cette époque-là, je rencontre le père de mon fils, donc assez jeune, vers mes 17 ans, 17-18 ans. Et je tombe enceinte quelques années après, à 19 ans. Fatalement, tous les projets de carrière ont dû être revus, parce qu'il y avait quand même la nécessité d'assurer la logistique avec mon fils. Et à ce moment-là, je commence à travailler assez rapidement, mais je continue quand même mes études en parallèle et je passe une maîtrise en communication et relations publiques en parallèle de mon fils, puisqu'en plus, je suis soutenue financièrement par ma mère à cette époque-là, donc qui me permet quand même de pouvoir continuer des études à côté de ma vie de maman. Alors, après avoir passé donc mon diplôme de communication, je gère ma vie de maman en parallèle. Et une fois que mon fils peut être pris dans une structure d'accueil, enfin de crèche, moi, je quitte le père de mon fils à ce moment-là et je commence à travailler dans le secteur du logement. Voilà, je prends un travail, on va dire, par nécessité. Je suis une jeune maman et ma mère est très présente. Elle s'occupe beaucoup de mon fils, ce qui fait qu'ils ont une relation jusqu'à présent très privilégiée. Et moi, je commence à sortir, à profiter un peu de la vie. J'habite à ce moment-là près de Paris. Et voilà, je sors pas mal et je jongle entre mon boulot, ma vie de maman avec ma mère qui est très présente et qui m'aide beaucoup, qui le garde, et professionnellement, où je travaille, on va dire, de façon classique. Voilà, mais je commence en fait à être dans une vie d'adulte tout en ayant une vie de maman. Donc à cette époque-là, j'ai pas la difficulté que peuvent dire d'être une maman solo, mais je commence à avoir des soucis de santé. Je fais des malaises, je tombe régulièrement quand j'amène mon fils à la crèche, j'ai des troubles moteurs, j'ai du mal à avancer mes jambes. Donc au début, on pense que c'est dû à mon mode de vie, parce que voilà, je suis un peu sur tous les fronts, et que je sors pas mal, que je m'alimente pas forcément bien, donc on s'inquiète pas forcément, je prends du magnésium et autres, et puis en fait, les symptômes persistent, ça inquiète mon entourage, et je passe 2 ans, je crois, d'errance un peu médicale, à pas trouver un peu de diagnostic, entre de la spasmophilie, un lupus, carence quelconque, une anémie. Donc, tout ça continue. Autour de mes 25 ans, on me diagnostique une sclérose en plaques. Donc, à partir de là, le couperet un peu tombe. Donc, se pose la question de comment je peux gérer mon quotidien. Ma mère prend mon fils chez elle, le scolarise là où elle vit dans le 77 à cette époque-là, et permettre à moi de pouvoir me soigner et de pouvoir gérer un peu l'acceptation de la maladie, les premiers traitements que je fais. À cette époque-là, je suis suivie à la Salpêtrière à Paris. La maladie entre dans ma vie à ce moment-là et ne me quittera plus à partir de cette époque. On me détecte à peu près dans les mêmes années, avant la trentaine, un cancer du col de l'utérus pour lequel je me fais opérer. Donc, je commence à avoir des problèmes de santé qui font que je ne peux plus gérer de front comme je le faisais précédemment. Une vie de maman et puis une vie de femme un peu active avec des sorties, avec des rencontres. Et ça commence vraiment à compliquer ma vie parce que je dois avoir des examens réguliers, des suivis. Je ne trouve pas forcément les bons médecins, donc les années difficiles commencent. Alors, à cette époque-là, du coup, moi, c'est vrai que quand j'apprends cette nouvelle-là, de ce qu'on me raconte, je passe par plusieurs phases, alors qui sont peut-être assez classiques, qui est une phase de colère, alors de déni au début, parce que je me dis non, parce que comme j'ai eu plusieurs diagnostics, un peu aléatoire, donc je m'y refuse un petit peu. Quand je vois vraiment les effets, je me dis, comment je vais faire pour vivre? Donc, il y a une phase de déni où je veux continuer, entre guillemets, à mener la vie que je mène, à sortir, à tout faire comme avant, ce qui ne m'est plus possible en termes de fatigue. Et puis, émotionnellement, c'est compliqué. Donc, moi, je commence à être en dépression, qui est une dépression qui va durer quand même plusieurs années avec des moments plus ou moins forts, parce que professionnellement aussi, du coup, je change de travail, je suis en arrêt, je suis assez jeune. C'est compliqué aussi dans les rencontres par rapport au regard des gens. Et moi, je le vis très mal. Puis j'ai une phase de colère parce que je me dis, je fais rien de mal. J'ai plutôt une vie saine. Je respecte quand même des valeurs, je dirais peut-être chrétiennes. Enfin, j'ai l'impression d'être plutôt une bonne personne dans l'absolu. Et j'ai vraiment cette notion de pourquoi moi? Surtout que sur la somme de frères et sœurs que j'ai, je suis la seule à avoir des problèmes de santé assez importants. Donc, il y a vraiment cette notion de je suis vraiment la ratée de... Enfin, en termes de santé, c'est pas la ratée de la famille, mais si, parce que je pensais reprendre des études et puis aller plus loin professionnellement, parce que même si j'avais été maman et que je voulais continuer et reprendre un cursus, on va dire, peut-être universitaire plus prestigieux, puisque dans ma famille, il y avait beaucoup cette idée, mais elle est tellement intelligente. Moi, mon surnom, c'était ce qu'on me dit Einstein quand j'étais petite. Très malheureusement pour une petite fille, a priori. Mais je suis l'intelligente de la famille. Et là, je peux plus travailler, je peux plus briller, même si l'intellect se situe autrement, mais je commence à l'accepter à peu près autour de mes 30 ans. Jusqu'au jour où je rencontre un homme. Alors, quand je rencontre cet homme, il arrive un moment de ma vie où je me sens seule, je me sens pas forcément très jolie, très désirable du fait de la maladie. Et quand je le rencontre, lui, c'est un avocat. Et intellectuellement, ben, ça match tout de suite et ça me relance dans ce que moi je pensais avoir un peu perdu. C'est-à-dire un échange intellectuel, des réflexions, des discussions. On parle beaucoup. Donc ça me fait un peu reprendre confiance en moi. Très vite, je lui explique. En fait, je crois dès le 2-3e jour, je lui dis dans quel état je vais avoir mes problèmes de santé. En me disant, bah, si tu veux partir, tu peux partir, c'est maintenant. Je le comprendrai tout à fait. Et pas du tout, ça ne fait pas fuir, il reste. Et moi, je suis assez, ça contribue à l'attachement que je lui porte. Il s'intéresse à mon fils, qui a une dizaine d'années à cette époque-là, qui a 11-12 ans. Et donc, ça change complètement après ma vie. On s'installe ensemble sur Paris, pour le coup, là où je vis, dans le 15e, et je commence une autre partie de ma vie à ce moment-là. Donc, après cette période-là, moi, je retrouve beaucoup de stabilité, un peu de sérénité. On a une vie qui est plutôt agréable. Je reprends un travail sur Paris, une vie active, une vie sociale avec lui. Et ça commence à aller mieux. Et puis, la maladie n'est jamais très, très loin. Elle se rappelle à moi sur différentes formes. Tout d'abord, je fais une très grosse crise au bout de quelques années où je suis obligée, après ça, d'être appareillée d'une canne que j'ai toujours aujourd'hui pour me déplacer. Parce que ça commence à être compliqué. Je retombe beaucoup. Je repasse dans une phase de crise physique qui est un petit peu compliquée. Et puis aussi, il y a un désir d'enfant de la part de cet homme qui devient un peu important, que je partage pas forcément puisque moi, je connais mon état de santé. Je sais ce que c'est d'avoir élevé un enfant seul, mais par amour pour lui auquel j'accède. Et on se rend compte que la maladie est un vrai frein et complique aussi les choses pour la suite. On se marie entre-temps, donc cet homme devient mon mari. On essaie d'avoir un enfant, donc on passe par une procédure de PMA, FIV, qui déjà ébranle beaucoup le couple, de ce que je sais, qui, moi, physiquement, rajoute, est très demandant avec tout ce que ça peut comporter, les hormones, la charge émotionnelle et physique que ça demande. Je fais deux fausses couches à des stades assez avancés, donc qui sont extrêmement éprouvants pour moi. Et on le vit pas de la même façon. Et de ce que je sais, ça a créé vraiment de la distance au sein de notre couple. Mon mari veut des enfants à tout prix. Et moi, je sens que ce désir-là, il est en train de me tuer physiquement et que je peux pas continuer comme ça et que j'ai envie de me préserver moi ou au détriment d'avoir un enfant. Et je prends la décision, du coup, d'arrêter la FIV. Et ça crée une scission. Et à ce moment-là, moi, je décide de quitter mon mari, en partie parce que je voulais pas continuer et aussi de ce qu'il m'a dit, parce que je lui donnais l'opportunité d'être papa. Parce que je considère que j'ai pas le monopole de la maternité et que de toutes les façons, même si lui ne voulait pas forcément, je sais que ça aurait été trop dur pour lui d'y renoncer et je préfère renoncer. Donc il y a aussi une forme d'amour dans le désamour et donc moi je demande le divorce. Donc c'est compliqué pour lui parce qu'en plus à cette époque-là de notre vie, mon fils est revenu vivre avec nous. Donc, il retrouve une structure parentale qu'il n'avait pas, auquel il est très attaché. Donc, mon fils vit très mal cette séparation. Donc, je me sens coupable, encore une fois, de pas être une mère à la hauteur de ce qu'on attend d'elle ou de ce que j'attendais de moi tout court. Donc, c'est des moments extrêmement difficiles. Et à ce moment-là, psychique ou psychologique, la maladie se rappelle à moi aussi. Et la deuxième année où je reprends mes contrôles, on détecte un anévrisme cérébral qu'on pouvait effectivement dater de au moins minimum 2 ans. Puisque 2 ans avant, il n'y était pas. Donc, ça permet aussi de voir un peu son évolution. Et à ce stade-là, pour moi, c'est un peu le coup de massue parce que j'avais envie de reprendre ma vie en main. Ça arrive à un moment où j'étais sur la fin de mon divorce. J'en venais quand même de trouver des accords. J'avais pu reprendre le travail à temps plein. Et on m'annonce que j'ai un aphrisme cérébral. Et là commence, de ce que je sais, un questionnement et puis des visites pour savoir des avis, pour savoir si c'est opérable, non opérable, qu'est-ce qu'on me conseille. Donc à ce moment-là, après poste de mon divorce, où moi je vis seule, je rencontre un nouvel homme, un nouveau compagnon de vie. Mais moi je suis dans une dynamique où je sors d'un divorce qui pour moi était quand même un peu compliqué, même si je l'avais voulu, avec des problèmes de santé qui reviennent. Donc je me sens pas étant le prix de l'année, quoi. Je me sens pas très très bankable du tout. Donc, on démarre quand même cette relation qui me fait beaucoup de bien parce qu'elle me réconforte. Mais à ce moment-là, moi, j'avais pas forcément une pensée à quelque chose de très sérieux. Mais j'apprécie les pôles sur lesquels je peux m'appuyer. Je passe des batteries d'examen. Et lors d'un examen de contrôle complètement anodin pour une échographie, bref, des cervicales, on me détecte un cancer de la thyroïde 2 mois après l'anévrisme. Donc, moi, je prends plusieurs avis médicaux. Il se trouve que mon cancer de la thyroïde est à un stade très avancé, un stade 5 ou 6. Donc, il faut l'opérer. Et entre-temps, les avis médicaux que je prends sur niveau neurologique convergent vers une opération de cet anévrisme parce que les risques de rupture et sa taille font que le risque est important. Donc, je décide d'aller me faire opérer, mais j'y vais vraiment extrêmement angoissée pour le coup. Le 6 octobre 2021, je rentre à l'hôpital, à la Salpêtrière, pour me faire opérer de l'anévrisme cérébral. Donc, à peu près 2 mois après l'opération précédente. On me laisse à l'hôpital pour l'opération qui aura lieu le lendemain, donc le 7 octobre 2021. Une date extrêmement importante, puisque donc je subis cette opération le matin, et au, au réveil de cette opération, en tout cas plus tard dans la nuit, je me réveille, on est dans un état de confusion qui est assez inquiétant à ce moment-là. Et on se rend compte rapidement, en tout cas au bout de quelques heures et quelques examens, que je souffre de troubles. Alors au départ, on appellera ça, c'est le terme médical, de troubles amnésiques sévères et qui se révéleront être par la suite une amnésie rétrograde totale. Donc je perds complètement la mémoire au réveil de l'opération. Je n'ai aucune idée du lieu dans lequel je suis, j'ai aucune idée de mon nom, puisque une des premières choses que de mes premiers souvenirs, à moi, mes vrais souvenirs, sont la lumière au-dessus de mon lit en salle de réanimation. Et puis, je demande où je suis et on me répond à l'hôpital. Le mot ne me dit absolument rien. Et on me demande comment je m'appelle et quelle date on est. Parce qu'on voit que je n'arrive pas à répondre. Et ces deux premières questions, je ne sais absolument pas y répondre. Donc, on me donne mon prénom. On me dit que je m'appelle Jaël. Je trouve que le mot est joli. Donc, je sais que je le retiens. Sans avoir vraiment conscience que c'est comme ça que je m'appelle, mais voilà, j'entends que quand on parle de moi, on dit Jaël et je trouve ça joli. On me donne une date qui n'a aucun, alors pour le coup, ça n'a aucun effet, ça n'a aucune valeur pour moi. Et on commence à m'expliquer que j'ai subi une opération et je me rends compte que les mots n'ont pas de sens. Je peux comprendre les mots, mais je ne vois pas les rattacher avec un sens. Une opération, on me rédige sort d'un barbecue, un truc, ça n'a aucune valeur. Rien n'a de sens, en fait, à ce moment-là pour moi. Et je sens très vite une angoisse extrêmement forte. Parce que je crois qu'inconsciemment, si maintenant je le dis avec a posteriori, je sens qu'il y a quelque chose de grave et que ma vie peut-être bascule inconsciemment. Je pense que je le sens et j'ai une angoisse sourde qui m'étreint le cœur qui ne m'a pratiquement jamais quitté depuis. Je viens de subir une opération du cerveau. On me dit que l'anesthésie a été très importante, peut-être alors du fait de mon angoisse ou autre, mais qu'on a chargé beaucoup l'anesthésie. Donc, c'est pas anormal, après une telle anesthésie, d'être dans la confusion, on est en salle de réanimation, on est sédaté. Donc, les premières heures, on ne s'inquiète pas. En tout cas, je ne sens pas d'inquiétude. On me dit simplement de me rendormir et que ça ira mieux à mon réveil. Je me rendors, ce qui me paraît être un court instant, mais qui se révèle beaucoup plusieurs heures. Et en fait, dans la nuit, on me fait passer un scanner, parce qu'on voit que l'état de confusion continue. Donc là, ils s'inquiètent un petit peu de savoir s'il n'y a pas une hémorragie post-opératoire. Donc, on me fait passer un scanner dans la nuit. Et je me rappelle être dans le brancard et dans tous ces couloirs, tout était noir, fermé. Et on m'emmène dans une salle de un scanner, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est une grosse machine avec qui fait des bips. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être... Enfin, aujourd'hui, on dirait de la science-fiction, mais je ne sais pas ce que c'est de la science-fiction. Donc, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais là, je suis complètement paumée. Je passe à peu près plus de 24 heures en réanimation. Et c'est à la fin de la réanimation où l'infirmière qui s'est occupée de moi, qui part, elle, qui fait ça certainement... Bon, je saurais maintenant de vous dire que ça relève, mais bon, pour moi, à l'époque, elle part. Et je la sens qu'elle me dit... Ayez confiance en vous. Je suis sûre que vous avez les ressources en vous pour surmonter ça. Et ces simples mots-là, parce que c'est la seule personne au début qui pas ma seule amie, mais la seule personne que je connais, en fait, m'aura toujours marqué parce qu'effectivement, elle, je sens qu'elle se dit que c'est pas normal. Voilà, elle me dit pas plus que ça, et puis elle s'en va, et moi, je reste là. Et quand je dois remonter en chambre, là, les gens sont quand même, je les ai trop embêtés, et ils savent pas trop quoi faire. Et là, eux commencent à s'inquiéter. Ou d'un mauvais geste médical ou quoi, mais en tout cas, il y a quand même une inquiétude qui commence à s'installer, on va dire, à partir de 24 heures. Quand je remonte en chambre, donc on me met en salle de neurochirurgie, on commence à me dire, on va prévenir votre mari qui va venir vous voir. Donc moi, elle me dit, mon mari, j'ai absolument pas de quoi elle parle, et quand il arrive, moi, je ne sais pas qui c'est. Donc... quand on ne me prévient pas, il y a quelqu'un qui tape à la porte de la chambre, qui passe une tête. Je vois quelqu'un qui a l'air souriant. Mais sorti de ça, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va faire le ménage. Enfin, je n'ai aucune idée, donc il m'explique après qui il est. Et là commence, on va dire, les débuts de ma nouvelle vie. Donc, c'est vrai qu'on m'explique, enfin, pas dire sans prendre de gants, mais sans essayer de comprendre que je peux évidemment ne pas comprendre que je souffre de troubles amnésiques, qu'on me dit au début que c'est dû à l'anesthésie, que ça arrive très rarement, mais que ça peut arriver, et que d'ici quelques jours, en fonction des organismes de chacun, une fois que les effets d'anesthésie seront dissipés, que les produits chimiques seront dissipés, les choses reviendront dans l'ordre. Donc, il y a une forme de... On essaie de rassurer. Moi, pour être honnête, j'y crois pas du tout. Sans savoir, hein, vraiment, c'est pour le coup, là, c'est vraiment ma conscience personnelle. Je sais pas, il y a une partie de moi qui croit pas. Donc, j'accepte ce diagnostic. Mais le problème, c'est que fort de ce qu'il pense que ce sera temporaire, il n'y a aucun accompagnement qui est fait, au quelque niveau que ce soit, qu'il soit psychologique, qu'il soit physiologique. On me laisse dans ma chambre seule. Je rencontre des gens qui peuvent être tout et n'importe qui, puis qui rentrent dans ma chambre, je ne sais pas qui c'est. Et donc, je suis complètement livrée à moi-même, à tous les niveaux. C'est vrai qu'après, ce premier diagnostic qui a été posé, où on essaie de rassurer, bon, mes proches viennent me voir en se disant, bon, bah, c'est passager, donc c'est choquant, mais ils sont inquiets, mais ils sont quand même un peu rassurés. Donc, mon compagnon fait le lien avec mes proches. Il y a mon fils qui vient me voir, je crois, 2 jours après. Je le reconnais pas du tout. Puis on m'explique un peu, bah, un enfant, c'est quelqu'un qui sort de votre ventre, c'est quelqu'un qui vient de vous, machin. Moi, je vois un grand gaillard qui a 20 et quelques, un peu costaud. Je me dis, bah non, ça, c'est pas possible. Moi, je kiffe pas du tout. Enfin, vraiment, il y a rien qui se passe. Donc, j'essaie de poser quelques questions. J'essaie d'être un peu naturelle parce que je vois les gens quand même qui sont quand même dans l'émotion, qui sont au bord des larmes. Et en fait, à ce moment-là, moi, leur peine m'encombre. Je suis moi-même dans ma propre réalité. Et je n'ai pas envie de rassurer des gens. Je n'ai pas envie de les voir tous là malheureux. Je me dis, non, mais c'est ouf. Enfin, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer par la suite parce que c'est vrai que ils n'ont peut-être pas forcément compris ou ça peut paraître un peu dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Moi, il n'y a rien qui se connecte au niveau des émotions. Il n'y a rien qui se met en place. Et quand je rencontre ma mère, pareil. Donc, c'est vrai qu'on se dit quand même. Et puis, les médecins me disent, vous verrez quand vous rencontrerez vos proches, ça va faire le déclic. Ce qu'on a de plus proche, en général, effectivement, c'est nos parents et nos enfants. Et moi, ces deux personnes-là me font ni chaud ni froid. Et même, bah, m'ennuient, quoi, parce que je les connais pas. Donc, passer les premiers bonjours, bah, j'ai envie de dire au revoir, quoi. Donc, ça reste compliqué pour eux. C'est très difficile pour eux puisque moi, j'ai eu mon fils très jeune, donc je suis très proche de mon fils. J'ai grandi avec lui. Moi, je suis la dernière fille de ma mère. Je suis la petite dernière, comme elle aime à dire. Donc, on était aussi très proches puisqu'elle était très présente pour s'occuper de Kyrian. Donc, ces deux personnes-là sont vraiment des personnes avec qui on est très proches. Et puis, on est plutôt tactile en plus dans la famille. Et moi, à ce moment-là, je ne supporte pas qu'on me touche. Les personnes, je ne supporte pas le toucher. Donc, quand ils ont des élans pour me prendre dans leurs bras parce que bah ils ont eu cette angoisse, ils me voient. Puis moi, à l'hôpital, je suis quand même dans un état de détresse qui se voit physiquement. Et ça, tout le monde me le dira. Là, ton regard est paumé et vague. Alors, après cette phase de l'hôpital, moi, je rentre donc dans mon domicile. On se rend compte très vite que je peux pas vivre seule parce que je suis en danger pour moi et pour les autres. Je sais pas me servir une plaque de cuisson. Je sais pas tourner un micro-ondes. Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est des clés, puisqu'à l'hôpital, il n'y avait pas de clés. Donc, quand on dit... faut fermer à clé, je ne sais même pas ce que c'est là. Donc, on se rend compte que je ne peux pas vivre seule. Donc, mon compagnon, à l'époque, on était ensemble, on ne vivait pas ensemble, il me propose de m'installer chez lui le temps que ça vienne. Et effectivement, les semaines passent et ça ne vient pas. Donc, moi, je passe dans une phase de dépression assez importante. Je me referme sur moi, je me rends compte que le monde extérieur est... Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est une horreur, quoi. Je trouve ça bruyant, je trouve que c'est... agressif, je trouve qu'il y a du bruit, il y a du son, il y a de la lumière, je sais pas. Je trouve que c'est d'une violence pour moi qui est, je n'arrive pas. Donc moi je me replie. Puis je sors pas du tout de l'appartement parce que j'ai peur de rencontrer quelqu'un. Je sais pas traverser toute seule. Mon compagnon doit me apprendre à traverser avec les petits bonhommes rouges et les petits bonhommes verts. Je suis incapable de tout. Et ça c'est affreux. Donc moi je vais dans une phase de dépression. Et à ce moment-là, effectivement, mon compagnon et une de mes sœurs commence à interpeller quand même l'équipe médicale en disant, bah, écoutez, ça, ça revient, ça ne vire pas. Nous, on sait pas quoi faire, sauf qu'il n'y a aucun accompagnement psychologique. Donc, on vous la donne un peu le boulet sur les bras. Bon, bah, merci, au revoir. Et on sait pas quoi faire. Donc, on demande un rendez-vous qui nous est donné que fin janvier 2022. En sachant que je sors de l'hôpital en octobre 2021. En fait, ils savent pas. Personne n'a été confronté à cette situation. Comme je le entendrais beaucoup, à part dans les livres et dans les films, on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est à ce moment-là que, sous le conseil d'un de mes proches, on me dit, bah, fille, il y a Internet, c'est un truc qui touche tout le monde, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui, pourra nous aider, un médecin, quelqu'un qui va pouvoir nous orienter. Et en fait, à ce moment-là, je fais une vidéo, une courte vidéo, j'explique rapidement ma situation en espérant que voilà quelqu'un du corps médical me contacte ou qu'on nous dise ce que j'ai. Puisque à ce moment-là, le mot d'amnésie rétrograde totale n'est pas vraiment posé, il ne sera qu'en janvier. Il y a un jour où moi, c'est très difficile, je vais, parce que j'ai un traitement, puisque j'ai un stent dans le cerveau, donc j'ai un traitement médical assez lourd à prendre. Et à la pharmacie, qui me connaît depuis très longtemps, elle me voit différente parce que les gens qui me connaissaient ou un peu m'ont beaucoup dit le regard est différent. Le regard et la voix. Alors maintenant, ma voix est apparemment redevenue plus normale, mais j'avais une voix plus de petit enfant. Et elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle me dit, écoutez, moi, je connais une orthophoniste qui a traité quelqu'un que je connais pour un traumatisme crânien qui est très bien. Et allez la voir de ma part, elle pourra peut-être vous aider. Donc, je la rencontre, qui me fait un bilan mémoriel, en fait, parce qu'elle est orthophoniste et neuropsychologue. Et elle évalue ma perte mémorielle à 90% à ce moment-là. Et elle me dit, vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Et elle me permet d'intégrer un hôpital de jour à la Salpêtrière toujours, qui eux, pour le coup, n'avaient rien fait, en rééducation fonctionnelle. Donc, je rencontre le chef de service, le professeur Prada, qui est estomaqué un peu de l'histoire, qui est aussi estomaqué qu'on m'ait laissé sortir de ce même hôpital sans suivi, et qui me dit, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Nous, on ne connaît pas des cas comme vous. J'ai 60 ans de carrière et j'en ai entendu parler. On apprend ça à l'école de médecine, mais j'en ai jamais traité. Mais on va essayer d'adapter quelque chose au cas par cas parce qu'on ne sait pas quoi vous faire faire. Il n'y a pas de protocole qui existe. Donc, je commence à faire de l'hôpital de jour grâce à ce biais-là, où je fais de l'ergothérapie, de l'orthophonie, de la rééducation fonctionnelle pour me rapprendre à me servir des objets du quotidien. Donc, une fois que le bilan a été posé et qu'on voit où sont les lacunes, elle me propose effectivement d'être suivie. Et donc, voilà, je réapprends les mots. Je réapprends ce qu'est un légume, un fruit, l'acide, la mer. On me fait avec des petits coloriages, des dessins, on m'explique, on me cache les trucs. Après, on me dit, le citron, c'est jaune, la tomate, c'est les couleurs. Je vais réapprendre aussi les animaux, je ne sais plus que ça existe. Donc, on me fait les animaux de la ferme. Enfin, je dois tout réapprendre. J'ai une vie à rattraper. Et puis, à côté de ça, j'ai les proches qui ont envie qui vous ramènent les photos, qui vous ramènent les trucs et il n'y a rien qui se passe, quoi. Je ne sais pas ce que c'est aimer. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un rapport intime. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir été mère. Je ne sais pas ce que c'est tout ça. Donc, en fait, faut vraiment se mettre à la place d'un enfant qui naît. Et quand on est petit, on n'attend pas beaucoup de choses de cet enfant-là. Sauf que de moi, on attend beaucoup de choses parce que j'ai l'air d'une adulte. Mais emprisonnée dans une réalité d'enfant. Donc, moi, au début, mon compagnon, je comprends à plus ou moins au bout de quelques semaines qu'il y a un côté homme-femme, et voilà, mais je ne sais même pas quel est le rapport intime. Une fois que j'ai mes règles, je pense que je refais une hémorragie, j'appelle l'hôpital en pensant que je refais un problème. Personne n'a expliqué que ce qu'étaient les règles, parce que personne n'a pensé que j'aurais pu aussi oublier tout ça. Enfin, la marge de choses est tellement importante. Et lui, il se rend compte très vite que moi, je l'aime pas. Enfin, c'est que je ne sais même pas ce que c'est aimer, je l'aime pas déjà pas moi. Donc au début, pour moi, c'est comme un parent, en fait, parce qu'il me dit fais pas ci, fais pas ça, faut pas manger de pain avant de manger. Voilà. Il me souffle plutôt qu'autre chose. Et moi, je réinvestis pas du tout le lien amoureux, parce que le lien amoureux n'existe pas. Je sais pas ce que c'est, puis en plus, ça ne m'intéresse pas. Lui, il souffre beaucoup. Pour le coup, lui, il le vit aussi, c'est quand même une perte. Lui, c'est pris un immeuble de 10 étages. T'avais quelqu'un depuis à peu près 2 ans. Il me dit, moi, je t'emmène la veille. Justement, c'est je t'aime, ça va bien se passer. Et puis le lendemain matin, c'est bonjour, qui êtes-vous? Entre guillemets, je caricature. 2 jours après, c'est qui êtes-vous? Sortez de ma chambre. Donc, c'est d'une violence inouïe. Il n'a pas été préparé non plus à ça. Et c'est très compliqué parce qu'en plus, moi, j'ai vraiment un rejet de cette personne parce que je ne l'ai pas choisi. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir choisi. Donc, il me dit que c'est lui. Je ne sais pas comment expliquer l'inexplicable quand on n'a pas vécu ce que je vis, mais cette histoire de rapport homme-femme n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est la séduction. Je n'ai plus de filtre. J'ai plus les codes sociaux, quoi. On me dira très bien. J'ai plus les filtres. Moi, je dis comme les choses me viennent. Alors, c'est marrant parce que j'ai entendu dire beaucoup la vérité sur la bouche des enfants et on trouve ça mignon. Mais passant certains âges, on trouve ça moins mignon quand on vécu vos quêtes de vérité. Et moi, si quelqu'un sent mauvais de la bouche, je vais dire qu'il sent mauvais de la bouche. Si ça me dérange, je le sens fort. Je trouve que les gens sentent fort la sueur. Ça me dérange. J'ai un odorat qui est pas habitué au début aux odeurs de la ville. Je pense comme quelqu'un qui viendrait, de la campagne, on n'est pas habitué à certaines odeurs. Donc moi, mon odorat n'existe plus puisqu'il n'a aucune référence mémorielle. Donc toutes les odeurs, je les prends hyper fortes. Moi, avec mon fils, dans les premiers mois, je ne sais pas de reconstruire un lien puisque je ne sais même pas qu'un lien existe. Moi, je vois quelqu'un qui ne m'intéresse pas. Donc, je suis très franche. Et même jusqu'aujourd'hui, j'ai peine de polisser les choses. Et donc, je vois cette personne. Je me dis, OK, on dit que c'est mon gamin. Ça ne me parle pas. Je sais pas ce que c'est qu'être mère. Je n'ai pas besoin de l'avoir ni porté ni rien. J'ai autre chose à gérer. Enfin, j'ai une vie à récupérer. Donc, honnêtement, sur les premiers instants, une reconstruction avec mon fils, ça n'existe pas. C'est un étranger. Donc, C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir peut-être manger, c'est savoir comprendre ce que j'ai autour de moi. Et je le vois très peu, parce que lui, il rentre dans une grande souffrance. J'ai la chance que, et ça je sais maintenant, que comme ma mère et lui sont très proches, ma mère est très présente. Puis quand je vois des photos, encore une fois, comme je dis, je ne me connais pas, donc je ne me reconnais pas. Bon, la première fois que je me suis dans un miroir, ça a été quand même très compliqué, puisque je n'ai pas été préparée à découvrir ma tête. Je ne suis pas non plus surkiffée. Donc quand je me vois en photo, ce n'est pas moi. C'est une autre qui me ressemble, mais ce n'est pas moi. Il n'y a aucun lien entre la personne qu'on montre sur les photos et moi-même. Alors, quand je commence à la rééducation, il y a deux choses qui sont importantes. C'est par exemple l'orthophonie, parce que j'ai besoin de comprendre et de mettre des noms sur des choses qui m'entourent. Et puis après, deuxièmement, ça me permet de comprendre un peu de choses par moi-même. Parce que c'est vrai que toutes les choses qu'on me fait, qu'on me dit, et là, à chaque fois que je sors d'une séance, même si elle me coûte énormément parce que il faut se forcer, c'est pas agréable d'être en rééducation parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on doit réapprendre, c'est des exercices, c'est pas quelque chose qui est ludique. Même si j'essaie de le faire dans le moins contraignant possible. Mais ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est aussi quand on me parle de moi, ça, ce qu'on disait de moi et ce que je disais enfant, où j'étais très brillante, très intelligente. Une chose qui m'a beaucoup servi, justement, c'est que j'ai un QI assez élevé. Et ça m'a servi, de ce qu'on me dit, les neuropsychologues, c'est pas moi qui le dis, les médecins, dans ma capacité d'apprentissage. Parce que j'apprends très vite, je mémorise très vite. Comme on veut dire, j'ai un muscle très entraîné, comme un athlète au niveau intellectuel, j'ai comme un athlète de grand niveau. Donc c'est vrai que moi, je vois pas la différence puisque je ne connais pas autrement que ce que je vis moi, ma réalité, mais j'apprends très vite. Et c'est assez gratifiant parce que je me rends compte que j'arrive à mémoriser. Ce qu'on n'était pas sûr aussi médicalement, c'est que la mémoire, donc à long terme, est endommagée, mais à court terme, je mémorise. Parce que j'aurais pu ne pas arriver à capitaliser que chaque jour, je dois que le muscle de la mémoire soit aussi endommagé, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'essaie de réapprendre, donc je me fais 8 heures par jour, des pages de culture générale, j'apprends un peu à me servir de Wikipédia et j'apprends, je prends un mot et du mot, je m'autorise 10 digressions sur un même mot ou sur un même fait et j'apprends tous les jours, 8 heures par jour. Et donc très vite, à la surprise de mon entourage et même des gens qui ne me connaissent pas, j'arrive, enfin très vite, de moi mais quand même vite, j'arrive à récupérer une connaissance très théorique. Donc, j'ai pas une connaissance de la vie, de l'expérience de vie, mais j'ai une connaissance, on va dire, un peu livresque des choses. Moi, je souffrais beaucoup d'avoir cette tête vide. Et vide dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que moi, j'ai rien dans la tête. C'est-à-dire que quand on ferme les yeux, les premiers jours, les premières semaines, quand on est en vie, comme moi en tout cas, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on ne rêve pas. Enfin, moi, je ne rêvais pas. Je n'ai aucun flash, aucun souvenir de la vie d'avant qui n'est revenu. Zéro. Donc, c'est rien. Et il n'y a pas plus angoissant. Le vide, que le néant, en tout cas, vous voyez, comme une pièce vide, grise, où il n'y aurait que des murs, ou des tiroirs qui seraient scellés, où je n'aurais pas accès. En fait, la mémoire, on voit comme quelque chose de très distancié de nous. Mais ce qui fait qu'on est qui on est, c'est parce qu'on se rappelle et qu'on a vécu des choses et que ça nous a forgé. Quand on n'a plus ça, on n'est plus rien. Donc moi, à ce moment-là, je ne suis plus rien. Je suis rien du tout. Et ça, c'est insupportable pour moi, à titre personnel. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire le plus. C'est de réapprendre beaucoup pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Alors aujourd'hui, moi après la rééducation, en fait, j'en ai fait pendant 5 mois. J'ai quitté Paris, donc j'y vais en 15e. Je quitte Paris parce que j'y arrive pas. En fait, je vois que j'arrive à récupérer effectivement un petit peu d'autonomie. Je vis dans la vie d'une autre, dans un appartement que j'ai pas choisi, avec quelqu'un que j'ai pas choisi, avec un boulot que j'ai pas choisi. Enfin, j'ai rien choisi de cette vie. Et ça m'est très difficile et ça entrave, on va dire, ma récupération en termes de morale, de ma santé psychologique, de ma santé mentale. Donc, j'essaie de quitter Paris sur un coup de tête. Donc, je m'installe à Marseille. Donc, je suis difficilement presque faire plus loin. Je pars, je rends mon appart, je mets tout dans un camion. Mon compagnon m'aide à descendre les choses. Lui, il voit ça comme je le quitte, mais pour moi, à l'époque, on n'est pas ensemble. Donc, pour moi, je l'ai pas quitté. C'est juste que je pars de Paris et je m'installe toute seule à Marseille, sans connaître personne. Et je passe 6 mois toute seule, ici à Marseille. Et puis, au bout de 6 mois, où je reste quand même très en lien avec Julien, parce que aussi, des fois pénible que je peux trouver, c'est mon seul lien, en fait. C'est mon seul proche. À partir de, je sais pas faire grand chose sans lui, on va dire. Je me rends compte qu'il me manque. Sa présence me manque. Donc, je lui propose de descendre s'installer à Marseille avec moi et de tenter, à ce moment-là, pour moi, l'aventure du couple, qui pour moi n'existait pas avant, en sachant que j'ai énormément de lacunes, que je ne sais pas ce que c'est que vivre avec quelqu'un, que je ne sais pas ce que c'est que voilà d'avoir une intimité physique avec quelqu'un non plus. Mais je lui dis à distance, en tout cas, on n'y arrivera pas. Et lui, comme il dit qu'il m'aime, je dis bon bah écoute, on tente et puis au moins on n'aura pas de regrets. Et puis si ça marche pas, bah voilà, ça marche pas. Donc il me rejoint il y a un peu plus d'un an à Marseille. Donc depuis on vit ensemble. Donc je suis en situation de handicap depuis quand même pas mal d'années au sein de mon entreprise. Donc je suis en 100% télétravail aujourd'hui. Un travail que j'ai repris après 8 mois de longue maladie. Pour reprendre mon travail, ça a été assez simple. Enfin, ça a été simple pour moi dans la façon de l'appréhender. C'est que moi, je vois que je peux tout apprendre. Et puis, je pense qu'on peut tous tout apprendre. Je pense qu'on se sous-estime beaucoup. On y a beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des pensées limitantes. Et je vois pas pourquoi, si je l'ai appris à 20 ans, je pourrais pas l'apprendre à 40, en fait. Donc, j'aborde les choses d'une façon qui n'est pas du tout la même que vous. Au sens large, j'entends. Et donc, moi, j'ai pas tellement peur. Mon boulot, par contre, eux sont quand même, complètement paumés. Ils ont jamais une salariée amnésique. Ça n'est jamais arrivé. Très peu d'histoire de DRH, on dirait mon boss. Et donc, il me dit, bon, on va s'adapter. Qu'est-ce que tu sais faire? Moi, de mon côté, j'ai beaucoup réappris seul. Donc, je me suis réappris à me servir d'une messagerie Internet, d'Outlook. J'étais responsable de com, chargée de communication. Donc, je réapprends la communication, technique de communication, la pyramide de Maslow. Enfin, je regarde sur Internet, quoi. Enfin, franchement, on peut tout apprendre quand on a un peu de volonté et peut-être un peu de capacité, je sais pas. Mais voilà. Après, j'arrive avec un petit bagage et ils pensaient que je serais arrivée en sachant peut-être aligner 3 cailloux. Donc, ils sont agréablement surpris quand même. Maintenant, la réalité fait que j'ai pas le même poste qu'avant. J'ai un poste avec moins de responsabilité, moins touchy, comme ils diront. Après ça, parce que j'ai pas les codes de l'entreprise, j'ai pas les codes sociaux tout court, que même si j'ai appris beaucoup en théorie, bah, j'ai pas la pratique, l'expérience. Donc, on me met sur des missions, on va dire, plutôt légères, un peu comme des missions d'assistante. Donc, je garde mon titre, ma fonction, mais dans les faits, j'ai pas du tout le même poste qu'avant. Mais ils adaptent, en fait, ma charge de travail à mes capacités au fur et à mesure. Ça va faire 2 ans en juin que je vis à Marseille. J'ai une vie en apparence dite normale. Alors, j'ai un appartement, je vis avec quelqu'un, j'ai un travail. Donc tout ça en façade est très normé, ce que je trouve déjà un peu triste de cette norme. Mais à l'intérieur, ça reste très compliqué parce que j'ai 2 ans d'existence consciente pour moi, 2 ans d'expérience consciente. Et je suis quand même dans un rapport au monde qui m'entoure qui est très compliqué, aux gens qui m'entourent qui est compliqué. Globalement, tous les gens de ma vie d'avant n'existent plus dans cette nouvelle vie. J'ai dû me refaire des amitiés, donc je ne sais pas ce que c'est non plus être amie. J'apprends. Moi, je n'ai pas eu de crèche, je n'ai pas eu d'école. Je ne me souviens pas de ce que c'est d'avoir vécu en collectivité, de la fac. Donc, tout ça n'existe pas. Donc, moi, j'ai une vie normale en apparence, dans un corps qui, dans un état d'esprit qui ne l'est pas. Moi, j'ai envie de boire des coups avec des copains toute la journée, de refaire le monde, de discuter, de théoriser. J'étais beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est ma génération en fait. Moi, quand on me dit souvent, mais t'es de quelle génération ? Et moi, je suis de cette génération-là. Je connais pas avant la référence des années 80-90. Quand on doit faire, je sais pas, il y a des musiques qui passent tout bêtement, ça ne me parle pas. C'est-à-dire que donc du coup, je suis un décalage avec les gens de ma génération, c'est-à-dire les quarantenaires, qui ont tout un tas de références culturelles, sociales et autres qui n'existent pas chez moi. Je me sens plus proche des jeunes qui ont 16-17 ans et qui se questionnent sur quoi faire de leur vie et comment évoluer dans cette société qui est pas facile, que quelqu'un qui va me dire bah, « je vais acheter un RSUV pour investir dans la pierre », ça ne me parle absolument pas. Donc, il y a quand même un très gros décalage qui est peut-être pas visible, mais qui pour autant est très présent. Quand je réfléchis à tout ça, parce que ça fatalement, ça questionne, il y a 2 choses que je me suis dites. J'ai pas forcément trouvé de sens, comme les gens pourraient l'entendre au premier chef. Par contre, je pense que ça ne m'est pas arrivé par hasard et que moi, j'ai pas envie que je ne sorte pas quelque chose de tout ça. Si c'est pour juste subir, parce que je peux en parler d'une façon très intellectualisée, très analytique, mais au quotidien, j'en chie vraiment beaucoup, encore énormément. Je vois les ravages que ça fait sur mon entourage, je vois mon inadaptation qui va peut-être encore être très longue. J'ai perdu 40 ans de vie, qui est considérable quand on en vient en moyenne 80. J'ai eu des problèmes de santé qui restent, pour le coup, importants. Mon corps, lui, n'a pas oublié. Donc, j'ai quand même une vie qui est quand même amputée pour moi, de l'essentiel. Et si j'en fais pas quelque chose, et c'est aussi une des raisons qui fait que je témoigne, que ce soit sur les réseaux ou dans le cadre d'émissions ou comme de témoignages comme celui-ci, c'est que j'ai vite compris, par contre, hein, même si mon histoire est assez extraordinaire pour quelqu'un de très ordinaire, parler déjà, ça aide, c'est très thérapeutique, ça vaut toutes les thérapies du monde. Et moi, je suis contente d'avoir un regard neuf sur les choses. Il n'est pas parfait, mais je crois qu'il n'y en a pas de regard parfait. et j'appréhende l'autre avec une différence que j'avais pas avant. Moi, je viens d'un milieu plutôt bourgeois, avec des codes pour le coup, avec beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés, très parisienne, dans les beaux quartiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un regard sur tout ça qui est très différent. J'ai l'impression que je suis connectée à quelque chose de plus vrai, de ce qu'on me dit de moi, encore une fois, même si je me juge pas et que j'avais certainement mes bonnes raisons d'avant. Et je me dis, il faut que j'en fasse quelque chose, parce que je vois que j'aide les gens. J'ai beaucoup de gens qui me contactent, qui ont vécu, alors pas des situations analogues, mais qui ont des parents qui souffrent d'Alzheimer, des gens qui ont subi des traumatismes différents, que ce soit par rapport à une amnésie traumatique suite à des abus ou autre. Il y a pas mal de choses. Et le fait que moi, j'ai un regard très simple, qui est pas, je vais pas dire encore une fois, je dis pas qu'il est parfait, mais très simple sur les choses, fait que, bah, j'aide. Et je vois que les gens me disent, bah, merci, votre témoignage m'a fait du bien, vous avez raison, gardez votre âme d'enfant le plus longtemps possible. Tout le monde devrait avoir une petite amnésie un jour dans sa vie pour en faire un peu un reset. Et même si les gens se rendent pas compte, parce que c'est loin d'être fun, moi, je me dis, faut que j'en fasse quelque chose pour que, du coup, justement, in fine, j'arrive à en trouver un sens. Aujourd'hui, je pourrais pas dire que je suis épanouie, ce serait mentir. Je suis plutôt contente de celle que je suis, aussi complexe soit-elle. Je suis quand même assez fière de ce que j'arrive à accomplir au quotidien, parce que ça reste compliqué. Et je suis contente du chemin que j'ai parcouru en 2 ans, ça, clairement. Mais l'épanouissement, non, c'est pas possible au bout de 2 ans. J'ai trop perdu pour me dire aujourd'hui, je me sens épanouie. Par contre, je me sens, je pense, plus raccord avec celle que je suis. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, mais peut-être qu'en fait, parce que mon caractère a quand même beaucoup changé, et on me dit peut-être qu'en fait, la vraie vous, c'est celle qui est maintenant, pas celle qui, enfin, on redevient à l'état de ce qu'on est quand on est départi de ce qui nous a rendu fort ou rendu aussi plus dur de la vie. Et si ça, c'est la vraie moi, je la trouve plutôt chouette, mais très complexe.
Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé Les Rescapés ? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.